Jonas, souvent c'est un livre qu'on présente comme un livre de belles histoires pour les enfants. C'est amusant à lire, c'est vif, ça bouge, il y a plein de couleurs, c'est quelque chose de très agréable à lire. Vous savez que les gens discutent pour savoir si c'est le récit historique de la vie de quelqu'un ou si c'est une espèce de parabole qui a été donnée. Peu importe. Ce qui est important, c'est que c'est un livre qui trouve sa place dans la Bible. Et ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est d'essayer de retrouver les parallèles que l'on peut découvrir entre ce que dit le livre de Jonas et ce que dit le reste de la Bible, notamment l'Ancien Testament, mais aussi un petit peu le Nouveau Testament. Alors je vous pose la question, vous avez lu, discuté de Jonas, est-ce que ça vous fait penser à d'autres passages dans l'Ancien Testament ? Ce n'est pas une question très facile. À Jérémie. C'est la réponse que j'attendais. C'est le premier auquel nous allons réfléchir. C'est Jérémie. On trouve tout d'abord dans les deux livres, que ce soit le livre de Jonas et le livre de Jérémie, des expressions un petit peu spéciales qui sont très peu employées ailleurs dans la Bible. Alors la première de ces expressions, c'est qu'on nous parle de proclamer un jeûne. Les gens de Ninive, après avoir entendu Jonas, proclament un jeûne. Et Jérémie, c'est surtout le chapitre 36 que nous allons examiner, nous parle d'un temps où on a également proclamé un jeûne devant le Seigneur pour le peuple de Jérusalem. Voilà une première expression que vous trouvez à très peu d'autres endroits dans la Bible, proclamer un jeûne. Une deuxième, qui est un petit peu spéciale aussi, c'est cette expression du plus grand jusqu'au plus petit, ou du plus petit jusqu'au plus grand. On peut le prendre dans les deux sens. Toujours en parlant des gens de Ninive, on nous dit qu'ils crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Jérémie, au chapitre 31, nous parle aussi « Tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand ». Simplement pour vous dire qu'il y a déjà sur le mode de la langue, la manière de parler, d'écrire, il y a des ressemblances entre ces deux auteurs, Jonas et Jérémie. Alors, explicitons un petit peu ce qui se passe dans le livre de Jérémie au chapitre 36. Ça se passe un jour de jeûne qu'on a proclamé et Jérémie avait, vous vous souvenez, un secrétaire, vous vous souvenez son nom ? Baruch. Baruch était le secrétaire de Jérémie. Et donc, Jérémie va envoyer son secrétaire pour lire un rouleau qui contient ses prophéties au peuple de Jérusalem. Une tâche pas facile. On est à une époque où les Israélites se conduisent souvent extrêmement mal. Et Baruch reçoit cette mission d'aller lire un rouleau de prophéties de Jérémie, et des prophéties qui sont souvent pas très agréable. Voilà, il donne ses instructions à Baruch. Va donc toi-même au temple de l'Éternel, au cœur de Jérusalem, un jour de jeûne, et lis dans ce rouleau que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel pour les faire entendre à tout le peuple, ainsi qu'à tous les gens de Juda qui seront venus de leurs différentes villes. Comme dans Jonas, il s'agit de proclamer la parole de l'Éternel dans un cas aux Ninivites, dans l'autre cas aux gens de Jérusalem. Et alors cette histoire se passe en trois épisodes, quand on regarde Jérémie, et dans deux épisodes, quand on regarde Jonas. Alors Jérémie, Baruch, fait ce que son maître lui a indiqué, il lut dans le rouleau les paroles de Jérémie dans le temple de l'Éternel, dans le parvis supérieur à l'entrée de la porte neuve du temple. Jérémie va dans le parvis, et le parvis, c'est l'endroit où on trouve tout le peuple. Les lieux saints et très saints étaient réservés aux prêtres, et le lieu très saint aux grands prêtres uniquement une fois par an. Et c'est ce qui se passe, tout le peuple pouvait l'entendre. Dans Jonas, on voit que le message de Jonas concerne d'abord les gens de Ninive, le peuple à nouveau, qui crurent en Dieu, publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. premier pas, parler au peuple. Alors dans le cas de Jérémie, il va y avoir un intermédiaire. Vont réagir les dirigeants du peuple, les grands, les gens qui ont de l'influence. Et ces gens ont entendu aussi le message lu par Baruch. Et ces gens-là, eux, ils ne décident rien. Tous les dirigeants lui dirent, prends avec toi le rouleau que tu as lu au peuple et viens ici. Ils lui dirent, assieds-toi s'il te plaît, lis-nous cet écrit. Baruch leur en fit donc lecture. Lorsqu'ils entendirent toutes ces paroles, ils se regardèrent l'un l'autre avec effroi et ils dirent à Baruch, il faut absolument que nous rapportions toutes ces paroles au roi. Des responsables qui ne sont pas suffisamment courageux pour prendre une décision eux-mêmes et qui en réfèrent au roi. Et donc là, on va retrouver un peu plus loin ce que fit le roi, une attitude très spéciale. Yehudi, qui était l'un des responsables, prit le rouleau et le lut au roi. Chaque fois que Yehudi avait lu 3 ou 4 colonnes de rouleau, le roi les coupait avec le canif du secrétaire et les jetait au feu dans le brasero, jusqu'à ce que tout le rouleau soit passé au feu dans le brasero. Et ni le roi, ni aucun de ses ministres qui entendaient toutes ces paroles ne furent alarmés. Voilà l'attitude choquante de ce roi de Jérusalem. On n'est pas chez les Ninivites, là. Le roi d'Israël donne des coups de canif, il coupe le manuscrit en petits morceaux, il le met au feu et il détruit la teneur de ses paroles. Quand on compare cette attitude du roi de Jérusalem avec celle du roi de Ninive, la différence est frappante. Après qu'elle ait touché le peuple, la nouvelle parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. L'un des rois détruit le message, l'autre le prend au sérieux et va prendre une série de mesures en rapport avec ce message, une attitude complètement différente. Un petit peu plus loin, on trouve encore une expression qui est commune aux deux livres, où il est question des hommes et des bêtes. Je ne sais pas si ça vous a frappé dans Jonas. Tous devaient se repentir, les hommes et les bêtes. Tous allaient être sauvés, les hommes et les bêtes. Jonas 8, que les humains et les bêtes soient couverts d'un sac, qu'ils invoquent Dieu avec force et que chacun revienne de sa voie mauvaise et de la violence de ses mains. Que les humains et les bêtes soient couverts d'un sac. Et dans Jérémie, contre Joachim, roi de Juda, tu diras, « Ainsi parle le Seigneur ». C'est toi qui as brûlé ce rouleau en disant « Pourquoi y as-tu écrit ces paroles ?» Le roi de Babylone viendra sans faute, il détruira ce pays et il en fera disparaître les humains et les bêtes. D'un côté, le salut des humains et des bêtes, de l'autre côté, la destruction des humains et des bêtes. Pour parler de Dieu, Jérémie et Jonas emploient un petit peu, je dirais, le même langage théologique pour exprimer les relations qui existent entre les hommes et Dieu. Le point central qu'on retrouve chez les deux, c'est qu'il doit y avoir à un moment donné un changement radical. Jérémie, peut-être la maison de Juda prendra-t-elle garde à tout le mal que je me prépare à lui faire, de sorte que chacun d'eux reviendra de sa voie mauvaise. Alors, je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Chez Jonas, à Ninive, Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur mauvais chemin. Aussi, Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés. Un Dieu qui demande un changement, un Dieu qui est prêt à pardonner. Mais il y a quand même un peut-être là-dedans. À Jonas, qui sait, se dit le peuple, peut-être Dieu reviendra-t-il de sa colère et ne nous fera pas périr. Dans Jérémie, peut-être la maison de Juda prendra-t-elle garde à tout le mal que je me prépare à lui faire, de sorte que chacun d'eux reviendra de sa voie mauvaise. Alors, je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Je ne sais pas si vous remarquez qu'il y a une petite différence entre ce à quoi s'applique le peut-être Est-ce que vous voyez quelque chose de différent, les deux? Voilà. Dans Jonas, le peut-être s'applique à ce que Dieu va faire. Dans Jérémie, le peut-être s'applique à ce que les hommes pourraient ou peut-être pas faire. Autrement dit, les personnes concernées ne sont pas les mêmes. Dieu dans un cas, le peuple dans l'autre cas. Si on va encore un petit peu plus loin, pourquoi est-ce qu'il y a un peut-être dans le livre de Jérémie ? Le peut-être concerne... Non, pardon, je vais un petit peu trop vite là. Le peut-être concerne donc le changement du peuple. Et on a l'impression que dans la mesure où le peuple se repent, change, le pardon de Dieu est quelque chose d'acquis. Peut-être la maison de Dieu fera attention, alors je pardonnerai leurs fautes. C'est un petit peu du donnant-donnant. Je change et toi tu me pardonnes. Dans le livre de Jonas, il y a une petite nuance. Peut-être que Dieu pardonnera. Le peut-être, c'est Dieu. C'est pas moi qui vais acheter Dieu en faisant ceci ou cela, en me conduisant de façon telle ou telle. C'est Dieu qui prend l'initiative. Dans le cas de Jérémie, on a l'impression que le pardon de Dieu est assuré d'office. Dans le cas de Jonas, c'est un pardon qui n'est pas automatique et qui élimine toute idée de marchandage. De marchandage avec Dieu. Je te donne un sacrifice, tu me pardonnes. Ou j'agis bien, tu me pardonnes. C'est pas de ça qu'il est question ici. Et Jonas, sans doute, avait été inspiré par le verset de Joël au chapitre 2, verset 13, un autre prophète qui a vécu avant lui. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez à Yahvé votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a regret du mal. Qui sait s'il revenait, s'il se repentait? Joël parle d'un Dieu de tendresse dont il dit qui sait s'il revenait, s'il se repentait. C'est Dieu qui peut décider. Et dans Jonas, on a à peu près la même chose. Qui sait, peut-être Dieu reviendra-t-il de sa colère et ne nous fera pas périr. Et Jonas emploie des mots qui sont presque les mêmes que Joël. Je savais en effet que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce et te repentant du mal. L'issue finale de la situation dépend de la tendresse et de la pitié de Dieu. C'est ça qui est important. Dieu est libre. Ce n'est pas un Dieu que nous pouvons manipuler. Alors, on continue un petit peu. Dans Jérémie, il est question de pardon des fautes et des péchés. Dans Jonas, Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés, donc apparemment la même chose. Mais il y a quand même une grosse différence, c'est que Joël, Jérémie parlent du peuple de Dieu, alors que Jonas parle des païens de Ninive. Et vous savez combien à cette époque-là les païens étaient, les Ninivites étaient craints. C'était un peuple qui était toujours en guerre avec Israël, un peuple qui était cruel, qui était connu pour ses actes barbares. Et c'est pourtant de ce peuple-là que Jonas parle dans les mêmes termes que Jérémie et Joël parlaient quand ils parlaient du peuple d'Israël et de Juda. Apparemment, ces païens, pour autant qu'on sache, ne connaissent pas Dieu, mais ils vont peut-être pourtant le découvrir. Et on en arrive ici à ce qu'on pourrait appeler le sermon, je vais dans le mauvais sens, le sermon du roi de Ninive. Le roi fit proclamer dans Ninive, par décret du roi et des grands, interdiction aux hommes et aux bêtes de goûter quoi que ce soit, interdiction de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes se couvriront de sacs et appelleront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui est entre ses mains. Qui sait, peut-être Dieu reviendra-t-il de sa colère et ne nous fera pas périr. C'est un sermon, comme je le dis, qui peut interpeller, qui donne une vision de Dieu qui est assez inhabituelle et qui devait servir de leçon pour les Israélites et pour nous. C'est une vision étonnamment juste de la personne de Dieu. Il n'est pas question de quoi que ce soit à payer, pas de sacrifice, rien. Par contre, il s'agit d'appeler Dieu avec force, d'avoir une relation forte, importante avec Dieu. Changer de conduite, on y a déjà insisté. Renoncer à la violence, et Dieu sait que les Ninivites étaient connus pour leur violence. Et avoir foi, et c'est ça le plus important, en un Dieu de tendresse, un Dieu qui hait le mal, mais qui veut le salut de tous les hommes, quels qu'ils soient. Et qui veut que règne la justice sur la terre, la justice, c'est-à-dire cet état où tout est bien, tout est beau, tout se passe bien, les relations sont agréables. Voilà ce que Dieu souhaite pour tous les hommes et son peuple et les autres. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette comparaison entre le livre de Jérémie, notamment chapitre 36, et le livre de Jonas ? Dans Jérémie, il s'agissait du peuple d'Israël. Jonas, il s'agit des païens. Tous les deux, et Jérémie et Jonas, parlent de changement de conduite. Ça, c'est un thème récurrent qui vient sans arrêt dans la Bible. Mais dans Jérémie, le pardon est lié à ce changement de conduite, alors que dans Jonas, il est lié à Dieu, sans marchandage, mais simplement parce qu'il est plein de tendresse et de pitié. Un autre prophète de l'Ancien Testament dont je voudrais dire juste deux mots, c'est le prophète Élie. On ne va pas lire de texte. Vous connaissez tous ce fameux épisode du Carmel, quand Élie a été confronté aux 700 prophètes de Baal. Des centaines de prêtres de Baal ce jour-là ont été tués au nom de Dieu. Et on peut voir quelque part dans Jonas une critique tout en douceur de cette attitude. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire avec ces prêtres païens que les massacrer ? Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu qui ne veut pas la mort des païens, mais qu'il change de conduite et qu'il vive ? Jonas, en s'attachant au salut des Ninivites, remet en cause cette attitude d'Élie qui sans doute avait mal compris ce que Dieu lui demandait. Quand il a eu cette confrontation, Dieu lui avait simplement demandé d'annoncer le retour de la pluie, le retour de ce qui fait du bien après 3 ans de sécheresse. Alors, un troisième personnage. Vous savez qu'à la fin du livre de Jonas, Dieu va l'interroger parce que Jonas est fâché. Qu'est-ce que Dieu lui demande ? Vous vous souvenez ? Comment ? Voilà. Est-ce que tu fais bien de te fâcher ? Pourquoi est-ce que tu es fâché ? Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un d'autre, ça ? Toujours dans l'Ancien Testament. Allez, je vais vous aider, c'est dans la Genèse. Pourquoi es-tu fâché ? Caïn, absolument. C'est à Caïn que Dieu a dit ces paroles tout à fait similaires. Alors il y a là aussi des choses qui sont intéressantes. Une expression qu'on trouve uniquement 2 fois dans la Bible, c'est partir loin de la face de Dieu. On parle souvent de personnages qui sont devant la face de Dieu, notamment les prophètes, mais partir loin de la face de Dieu, ça se retrouve uniquement dans Jonas et dans l'histoire de Caïn. Il n'y a pas d'autre expression identique dans toute la Bible. Alors, qu'est-il dit ? Après que Dieu ait posé cette question, Caïn lui répond « Le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Je devrais me cacher loin de ta face. » Et Caïn se retira loin de la face de Dieu. C'est répété 2 fois quand il s'agit de Caïn qui fuit la présence de Dieu. Jonas, lui, se mit en route pour fuir à Tarsis, loin de la face de Dieu, lui aussi. Une Autre similitude entre les deux récits, c'est qu'il est question de partir dans les deux cas. Jonas va partir, il va quitter l'endroit où il habite pour aller à Tarsis. Caïn va partir pour fuir de la face de l'Éternel. Mais dans les deux cas, il y a un départ, quelque chose qui change dans leur vie de manière assez fondamentale. Comme Caïn a fui Dieu, il fut très fâché, son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Caïn dit à l'Éternel un peu plus loin, « Voici, tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile. » Et Caïn partit loin de l'Éternel. Nous n'aimons pas beaucoup ce personnage de Caïn. Pourtant Dieu, là aussi, il invite à réfléchir. Pourquoi est-ce que tu es fâché ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça nous renvoie à la question dans le jardin d'Éden. Où êtes-vous ? Où en êtes-vous ? Dieu invite les hommes, dans toutes les circonstances, à se positionner, à tirer parti des expériences que l'on vit pour arriver à changer. Et donc, Jonas, lui, il fait exactement comme Caïn. Il fuit Dieu. Tout a l'air très bien organisé pour pouvoir fuir à Tarsis. Et Tarsis, c'est aussi une ville qui avait une réputation. C'est Ésaïe 66 qui en parle. J'enverrai certains de leurs rescapés vers les nations, à Tarsis, vers les îles et les régions côtières qui sont au loin, qui n'ont pas encore entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire. Tarsis, c'est un endroit qui n'a pas encore entendu parler de Dieu et qui n'a pas vu sa gloire. On ne sait pas très bien où c'est en réalité, mais c'est ça qui est important. Jonas fuit un endroit où on n'a pas encore entendu parler de Dieu. Encore un petit détail interpellant. Quand on passe de Jonas 1, qui fait fortement penser à Caïn, à Jonas 4, on voit que, après la conversion des Ninivites, Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Caïn, où est-ce qu'il était parti ? Il alla séjourner au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'est d'Éden. Des petits clins d'yeux comme ça, qui montrent qu'il y a vraiment une relation entre les deux et que l'auteur du livre de Jonas, comme il connaissait Jérémie, connaissait aussi le livre de la Genèse. Caïn est fort en colère, Jonas aussi, et cela amène Dieu donc à lui poser une question, est-ce que tu as raison d'être en colère ? Dieu veut essayer de faire comprendre à tous les deux, à Jonas comme à Caïn, que leur colère contre lui vient du fait qu'ils ne l'ont pas compris. Jonas et Caïn n'ont pas compris réellement qui était Dieu. Mais Dieu va continuer à s'adresser à Jonas, comme il a continué à s'adresser à Caïn. C'est pas un Dieu qui, une fois qu'ils ont pris la fuite, les laisse tomber. C'est un Dieu qui revient vers eux. Un Dieu qui, s'il se préoccupe des païens, se préoccupe aussi de ses enfants qui sont les plus proches. Dieu veut leur faire comprendre que leur colère vient de cette mauvaise compréhension qu'ils ont de lui. Dieu lui dit à Caïn, « Qu'as-tu fait ? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. » Dieu dit à Jonas, après qu'il ait fait pousser un ricin, que le ricin ait séché, « As-tu raison de te fâcher pour ce ricin ?» Donc la première fois, il disait « As-tu raison d'être fâché parce que j'ai sauvé Ninive ?» La deuxième fois, « As-tu raison de te fâcher pour ce ricin ?» Yahvé répondit « Toi, tu as de la peine pour ce ricin. Et moi, je ne serai pas en peine pour Ninive, la grande ville de plus de 120 000 habitants. » Jonas, en fait, a accueilli la mission que Dieu lui confiait, comme Caïn a accueilli son châtiment. Il est tout aussi en révolte contre Dieu et en colère contre lui que Caïn était en révolte et en colère contre Dieu aussi. Pourtant, donc, sur les deux repose cette main protectrice, cette main qui essaie de faire du bien de la part de leur Dieu. dernière chose à laquelle j'aimerais vous amener, c'est à passer maintenant dans le Nouveau Testament. Alors, tout le monde connaît l'histoire de Jésus qui dit, quand les pharisiens lui demandent un miracle, il dit « Je ne vous donnerai pas d'autre miracle que le miracle de Jonas ». Je ne vais pas vous parler de ça, mais d'une façon un petit peu plus générale de l'attitude de Jésus. Quand Jésus est arrivé sur la terre, qu'il a commencé son ministère, les choses n'étaient pas tout à fait claires. Et on se rend compte, en fait, que Jésus a fait face exactement au même problème que Jonas avait dû affronter. On trouve ça dans le récit de ce que faisait Jean-Baptiste, qui annonçait la venue de Jésus. Donc les gens venaient de toutes les contrées, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant ainsi leurs péchés. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ?» Sympathique, hein ? Les gens viennent là pour se faire baptiser, pour, en reconnaissant leur péché, et lui, il leur répond « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu ?» C'est un petit peu ce que pensait Jérémie, c'est un petit peu ce que pensait Jonas. Ces gens-là ne méritent pas que Dieu s'occupe d'eux. Et non seulement il les rabroue par ces paroles-là, mais encore il va plus loin. Attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Autrement dit, vous, les pharisiens. Mais quelqu'un vient après moi, là on parle de Jésus, il est bien plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner, il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. C'est sympathique de dire « c'est Jésus qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu ». Mais le feu, c'est le feu qui ne s'éteindra jamais, qui est une punition éternelle. Voilà ce que Jean-Baptiste enseignait concernant Jésus. Des arbres jetés au feu, la balle qui est brûlée dans un feu éternel. Est-ce que c'est ce message-là que Jésus a repris pendant son ministère ? Première prédication de son ministère, Nazareth. Jésus publie une année de grâce, de pardon, de libération, de guérison, alors que Jean-Baptiste annonçait un jugement catégorique, un tri entre les bons et les mauvais. Et plus tard, dans son ministère, Jésus ne va jamais s'adresser aux justes et aux bien portants, mais aux pécheurs et aux malades. Jésus va fréquenter les personnes de mauvaise vie, ceux qui ont mauvaise réputation, comme les Ninivites avaient mauvaise réputation à leur époque. Jésus va briser des tabous, des choses qui étaient admises par tout le monde, des tabous concernant le sabbat, et ça devrait peut-être nous interpeller, des tabous concernant la façon de manger, de s'alimenter, des tabous concernant tous les rites de purification. Pourtant, c'est Dieu qui avait donné ça, mais ça avait été compris d'une telle manière que Jésus a dû réagir et intervenir pour lutter contre ces tabous. Jésus va aussi toucher des intouchables. Une femme qui a une perte de sang depuis des dizaines d'années. Vous savez que les femmes qui avaient leurs règles ne pouvaient pas être touchées par un homme, elles étaient impures, a fortiori si ça durait depuis 40 ans. Il touche des lépreux, qu'il était formellement interdit de toucher également. Jésus va chercher les brebis perdues. Jésus parle non pas aux puissants et aux grands, mais surtout aux gens simples et aux païens. Vous vous souvenez, première païenne rencontrée, Jean 4, la Samaritaine. Et on voit comment Jésus s'est comporté avec elle. Et Jésus va, pendant tout son ministère, exercer le pardon, faire comprendre le pardon, transmettre le pardon, libérer par le pardon, jusqu'à la croix, où il dit « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Le pardon, un message central de la part de Jésus. Non, Jésus n'était pas le Messie que les gens attendaient à ce moment-là. Il va tout à fait à contre-courant des opinions courantes. Mais il explique Il dit que cette conduite qu'il a et qui choque, c'est en fait celle qui manifeste la véritable personne de Dieu. Vous vous souvenez la parabole des ouvriers loués à différentes heures, qui reçoivent tous le même salaire à la fin. Et on critique cette attitude. Dieu prononce ses paroles à la fin de la parabole. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme je l'entends ? Le peut-être concerne Dieu. J'ai le droit de disposer de mes biens. C'est moi qui suis à l'initiative. C'est pas vous qui devez acheter votre salut. Ou bien faut-il, continue-t-il, que tu sois jaloux ? Jaloux parce que je suis bon ? Est-ce que nous devons être jaloux parce que Jésus est bon ? Dieu est bon vis-à-vis de ceux que nous n'aimons pas ? C'est, je dirais, l'évangile de Jonas, ça. L'évangile de Jonas. Je sais que tu es un Dieu plein de tendresse et de compassion. Je sais que tu es un Dieu plein de tendresse et de compassion pour moi, pour nous, mais aussi pour eux, pour les autres. Amen.